Carnet de campagne, bonjour. Pour cette dernière incursion dans le département de Loire-et-Cher, je vous transmets une initiative qui répond à un souci très actuel des moyens des personnels, souci que connaissent les EHPAD en France. Donc pour répondre à la question du mieux vivre et de la possibilité de vieillir à la maison, le département de Loire-et-Cher a ouvert la Maison Bleue à Blois, une sorte de maison témoin pour tester les solutions, les aménagements et les équipements qui permettent de pallier la perte d'autonomie. La visite de cette maison est gratuite et accompagnée. Elle permet de découvrir plus de 200 produits dédiés au maintien à domicile. Alors, si le département s'honore de cette initiative, d'ailleurs, il a raison, c'est très bien, il oublie quand même de préciser que les personnes qui sont en perte d'autonomie vont avoir des difficultés pour aller jusqu'à Blois visiter cette maison bleue. Quoi qu'il en soit, le site, c'est lamaisonbleue41.fr. Alors, à ce sujet, et à titre de démarche complémentaire, nous nous étions entretenus en avril l'année dernière avec un responsable de l'association local du mouvement national SOLIA, c'est-à-dire Solidaire pour l'Habitat, qui préparait la mise en circulation à l'époque d'un bus équipé de ces solutions de maintien à domicile vers les communes rurales du Lot et Garonne. Donc c'est une sorte de maison témoin ambulante, et ce dispositif au contact des habitants du territoire propose aux communes intéressées non seulement d'accueillir le bus, mais d'ouvrir aussi des inscriptions aux ateliers de prévention prévus à chaque étape, et il circule maintenant. Il y a un site pour suivre ce dispositif, c'est pacte-hd47.com. Le Loir-et-Cher est l'art de la table, une vieille histoire. Toutefois, il en existe une version très récente, incarnée par la Grange au savoir-faire, une vieille ferme tourangelle retapée, et le siège d'atelier de technique culinaire. Guillaume Mignard, fondateur de ces ateliers, est notre premier invité. Vous pouvez le retrouver aussi dans les pages numériques du magazine La Vie. Et puis, grande particularité blésoise, ces jardins familiaux qui ne sont pas moins de 500 ouverts aux personnes désireuses de se faire la main et leurs légumes. Jacques Pontalier, président de l'association blésoise donc des jardins familiaux, sera notre second invité.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Guillaume Mignard, bonjour.
Bonjour.
Guillaume, vous êtes le fondateur de la Grange au savoir-faire depuis un an qu'elle existe. Or, c'est un lieu, effectivement, c'est une ancienne grange installée dans un village de Val-de-Loire.
Exactement.
Et qui est un point de convergence des savoir-faire et plus particulièrement des savoir-faire culinaires.
Exactement, alimentaire au sens large.
Oui, alimentaire. Faut dire que dans le Loir-et-Cher et dans la région, si on ouvre un tout petit peu, entre Blois et Tours, la voisine un petit peu plus loin, on a le fief même d'une gastronomie qui a été à l'origine de la reconnaissance du repas et de la gastronomie française au patrimoine mondial de l'humanité.
Tout à fait, je crois même qu'il y a à la fac de Tours une chaire dédiée à ce sujet.
Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez d'ouvrir une grange au savoir-faire alimentaire ?
Eh ben, le point de départ, c'était vraiment l'idée, l'envie de reprendre la main sur notre frigo, reprendre la main sur notre alimentation, en se posant une question qui était celle de savoir si on pouvait ou non, dans une logique régulière et familiale, produire nous-mêmes tout ou partie de notre alimentation. Et cette question, on l'a posée finalement à des artisans qui nous entouraient ici dans le Loir-et-Cher, en leur proposant finalement de se dire, est-ce que vous seriez partant d'abord pour partager vos tours de main, vos astuces avec du grand public ? Et est-ce que il serait possible, selon vous, de transposer des pratiques professionnelles dans un quotidien particulier ? En gros, est-ce qu'il est possible de fabriquer soi-même son pain ? Est-ce qu'on peut faire sa charcuterie ? Est-ce qu'on peut faire sa bière ? Faire son chocolat soi-même dans une cuisine ménagère, sans forcément d'équipement ? Et on s'est rendu compte que le facteur limitant n'était pas le temps, n'était pas financier, n'était pas le matériel, mais la compétence. Mmh. Et donc on a demandé à ces artisans de nous aider ou de s'engager dans une démarche de transmission à travers un lieu. Et ce lieu, on l'a imaginé ensemble, et c'est cette grange au savoir-faire qui était vraiment un point de rencontre. On propose toute l'année des ateliers qui mettent aux prises donc ces artisans passionnés et des gens qui ont envie d'apprendre au contact d'un boulanger, d'un charcutier, d'un brasseur, que sais-je.
Ouais. Il s'agit de gagner son indépendance, et là on n'est plus dans le circuit court, c'est le circuit ultra court, on peut faire chez soi.
On peut faire chez soi, alors on ne sera pas boulanger après une journée à la grange évidemment. En revanche, on aura compris avant tout la grammaire, qu'est-ce qui fait qu'un pain lève, pourquoi une croûte peut être terne ou dorée, hein, toutes ces petites choses qui font qu'on passe d'un produit un peu brut à un produit qui commence à ressembler à un beau produit. Mais le circuit reste néanmoins ouvert parce que nos participants restent également des consommateurs et ils créent une relation nouvelle avec leurs artisans de proximité.
Mmh. Et alors, qui sont les personnes qui viennent suivre les séances de découverte, de transmission des techniques culinaires et des ateliers?
Eh bien, on trouve finalement dans ces ateliers des gens de tous âges et de tous origines. La Grange est située à 2 heures de Paris, Nantes et Bordeaux, donc on pensait bien que des gens urbains seraient intéressés, mais paradoxalement, c'est pas les seuls. On trouve des gens de toutes origines, de partout en France, qu'on trouve des gens qui sont des jeunes parents, qui ont envie de se dire que voilà, maintenant, on va arrêter les fast-food et on va produire autrement et nous-mêmes ce qu'on va donner à nos enfants. Beaucoup de gens qui sont dans la force de l'âge, beaucoup aussi de retraités qui viennent préparer une retraite un peu décroissante en mettant enfin à profit le temps qu'ils ont pour parfois réaliser une envie qu'ils ont depuis longtemps. Donc des gens d'origine différente qui ont des motivations différentes. Il y a des gens qui sont là vraiment pour le simple plaisir de faire le week-end de temps à autre leur charcuterie. Donc ces publics-là se mélangent harmonieusement à la Grange.
Je regarde le programme, il est très suivi. Alors c'est vendredi, samedi, dimanche la plupart du temps, mais oui, c'est quasiment permanent, il n'y a pas d'interruption dans votre programme. Je prends le mois de mars, sans gluten, cueillette et cuisine sauvage, brassez votre bière, 100% comestible, le vin quotidien, les pâtes, mon boulanger c'est moi, voilà toutes les thématiques qu'on trouve.
L'hiver même se prête à plein de choses. On travaille avec une botaniste qui est glaneuse. On part en forêt le matin. On se rend compte qu'on peut glaner énormément de choses qu'on pourra ensuite cuisiner ou manger de façon sauvage dans son assiette. Et même cette partie-là qui est la plus sujette aux aléas naturels, on se rend compte que la nature est bien faite. Parce que c'est maintenant, vraiment en février-mars, avant que les potagers aient repris du poids de la bête, qu'on trouve énormément de produits naturels. C'est ce qu'on appelle la période de soudure. Et c'est fantastique de partir avec Amandine en forêt et de se rendre compte à quel point on a à portée de main une foule de produits intéressants, goûteux, colorés et étonnants.
Ça s'appelle La Grange au savoir-faire. Le site, c'est lagrangeausavoirfaire.fr au pluriel. Hein. Vous l'avez compris, toutes les technique et un nombre presque illimité de thématiques d'ateliers. C'est à Vallières-les-Grandes, le village qui se situe donc entre Blois et Amboise. Il suffit de bien chercher, mais vous allez le trouver assez rapidement, puis vous allez sur le site et vous serez guidé. Merci Guillaume.
Merci beaucoup et merci pour vos émissions.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Merci Sophie pour votre courrier chaleureux. Sophie est une habitante du Loir-et-Cher. Elle nous propose aussi de présenter la Maison de la Botanique qui agit, je cite, au cœur du Perche Vendômois pour changer la relation de l'homme aux plantes et aux espaces naturels. Et Sophie a bien fait de nous alerter car cette association est née de bénévoles. Le village Bourset, 200 habitants au dernier recensement, et emploie 3 salariés et offre une multitude de services, de liens avec le monde végétal. La genèse de la maison remonte aux années 90 par une opération de plantation de haies champêtres. En 94, un premier chemin botanique est inauguré, la maison atelier ouvre en 2000 et depuis cette date, 2 autres chemins ont été aménagés, dont celui des Trognes, suite à une première ébauche au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. En 2003, le Centre européen des Trognes est lancé et 5 ans plus tard, est créée une exposition permanente sur ces Trognes. Plus récemment, en 2011, les premières rencontres nationales de plaissage se tenaient à Bourset. Le plaissage désigne la technique de taille des haies vives, c'est-à-dire à partir d'arbustes que l'on taille, on les fend en quelque sorte, et puis on va les tresser les uns aux autres de façon à constituer une haie. La maison propose tout au long de l'année d'ailleurs des sorties, des ateliers, dont certains consacrés aux techniques justement de plaissage. Si vous voulez voir le détail des activités, dont un concours photo sur le thème de la nature obstinée qui est lancé par cette maison botanique, je vous conseille d'aller sur son site. C'est très simple, c'est maisonbotanique.com, tout simplement. Jacques Pontallier, bonjour.
Bonjour.
Jacques, vous êtes président de l'association blaisoise des jardins familiaux. C'est une très vieille histoire. Elle a plus d'un siècle. L'abbé Jules Lemire, député maire d'Hazebrouck, précurseur du catholicisme social, qui est à l'origine de ce qu'on va appeler les jardins ouvriers. Et à une époque, les jardins ouvriers disparaissaient. Il y a eu la période des Trente Glorieuses, comme on l'appelle fréquemment, de moins en moins de jardins. Et aujourd'hui, il y a un renouveau de ces jardins familiaux.
Oui, ça se comprend aussi, parce que il y a aussi l'appel de la nature pour beaucoup de gens qui vivent en HLM ou dans des appartements.
Oui. Comment fonctionne un jardin familial ou collectif?
Alors, sur Blois, l'association est gérée par un conseil d'administration il y a quelques années, l'association n'était constituée que du conseil d'administration, c'est-à-dire 15 membres.
Oui.
Il y a un peu l'origine paternaliste des jardins créés par la chocolaterie Poulain, et c'était, disons, des personnalités qui géraient cette affaire-là. Mais depuis quelques dizaines d'années, là, on a ouvert, bien sûr, à tous les jardiniers, maintenant, on a au moins une quarantaine d'adhérents. Mais effectivement, tous les jardiniers ne sont pas adhérents. On met à leur disposition des parcelles. On a des petits jardins qu'on appelle jardinets de 150-180 mètres carrés et des jardins à peu près normaux de 300-400 mètres carrés.
Oui. Voilà.
Et donc, ils payent une participation de 50 euros pour les petits jardins et puis 84 euros actuellement pour les grands jardins. Ils sont dans des groupes. On a 14 groupes à Blois. Ces groupes sont plus ou moins gérés par un délégué, un jardinier délégué, qui vérifie quand même l'application du règlement intérieur. Quand ils prennent un jardin, ils signent l'engagement de respecter un règlement intérieur, qui est assez strict. Enfin,
Chez vous, c'est quand même un point d'exception en France. Vous gérez près de 500 jardins, donc sur les 14 groupes, entre les communes de Blois et de Saint-Gervais. Qui est propriétaire de ces espaces? Ce sont les communes? Ce sont des propriétaires privés?
Oui, sur Blois, il y a, disons, trois principaux propriétaires. L'association elle-même, qui possède plus de 3 hectares. La commune de Blois en possède également. Et le reste, c'est la Fédération nationale qui est aussi également propriétaire des terrains eux-mêmes.
Alors, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs gère aujourd'hui, enfin fédère plus de 200 associations de jardins familiaux.
Oui.
Et comment peut-on, alors qu'il y a un regain d'intérêt pour le jardinage et la production et la consommation relocalisée de production et savoir-faire par soi-même, c'est encore mieux. Comment défendre cette politique-là alors qu'il y a toujours l'urbanisation dans les villes qui fait qu'on limite de plus en plus les parcelles cultivables?
Oui, ça c'est un problème de volonté politique, mais actuellement, on a des problèmes aussi, disons, de dégradation des jardins, des vols. On a actuellement des groupes de jardins, par exemple à Blois, qui sont un peu en déshérence parce que les jardiniers fuient, vous voyez.
Ah oui.
Alors, c'est un aspect qui, bien sûr, on essaye de gérer ça avec l'agglomération de Blois. C'est peut-être ça qui freine un peu, je sais pas, au point de vue politique, peut-être l'extension de ces jardins familiaux. Voilà.
Est-ce que vous attirez les jeunes jardiniers maintenant?
Oui, on a effectivement. Alors c'est un petit peu ce qui a changé parmi les jardiniers. Avant, c'est vrai que les jardins à l'origine étaient mis à disposition des familles pour cultiver des légumes pour la consommation personnelle.
Oui.
C'est aussi devenu pour les familles qui vivaient en appartement une porte de sortie vers la nature. Et la cabane de jardin, c'est une sorte de maison secondaire. Alors souvent, c'est plutôt un lieu de villégiature. C'est quand même aussi, les jardins familiaux ont un rôle social important dans la gestion de la diversité. Et alors, il y a des jeunes, effectivement, qui viennent, mais disons, on trouve rarement parmi les jeunes des véritables jardiniers, comme on les trouvait avant, qui cultivaient les jardins au cordeau, vous voyez, que tout est. Et souvent, c'est plus des cultures de légumes, mais souvent de l'aménagement paysager, vous voyez, dans les jardins. Mmh. On lutte un peu pour ça, parce que c'est pas le rôle des jardins familiaux. Voilà.
En tout cas, c'est difficile de dénombrer l'ensemble des jardins familiaux en France, parce que chez vous, il y en a 500. Alors, vous êtes une région très particulière, mais c'est par dizaines de milliers qu'existent ces jardins familiaux et collectifs. Le mieux, c'est de se renseigner sur le site jardin, au pluriel, tradeunionfamiliaux.asso.fr, pour connaître l'implantation de ces jardins et des associations partout en France. Il y en a 200 aujourd'hui, je le rappelle. C'est assez impressionnant. Merci Jacques Pontalier.
Et merci de s'intéresser aux jardins familiaux. Au revoir.
Au revoir. La semaine prochaine, on va changer complètement d'orientation pour aller vers le sud et en particulier nous arrêter tout d'abord dans le département du Var. Ensuite, nous traverserons le Gard, l'Hérault, le département de la Charente, celui de Haute-Vienne. Et depuis cette Charente et cette Haute-Vienne, on prend toujours vos courriers. Merci beaucoup. Merci aussi à Anne Lureau qui réalisait les carnets, à Lisa Mchin qui leur apportait du contenu, aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnait du volume, comme aujourd'hui Raphaël Rousseau. Nicolas Stouffle, assisté de Yann Paillet, la dernière du Loir-et-Cher à Vineuil, le jeu des 1 000 euros.